Malheureux, quelle place la charité en tant que vertu prend dans l'exposé de l'Ecclésiaste, et quand je reprendrai le thème général. Mais j'indique d'abord la forme même de l'expression employée, char la smechal penamaïm, jette ton pain à la surface des eaux, mais lorsque tu donnes la charité, ne te préoccupe pas. La charité, ce n'est pas le mot exact, c'est tzedaka, la vertu de tzedaka. Ne te préoccupe pas de qui reçoit. Rambam, dans les lois concernant la tzedaka, note 7 degrés différents de vertu de tzedaka. Le degré supérieur, c'est le fait de donner matana beseder. C'est une règle très connue des milieux juifs traditionnels, c'est que la vertu la plus pure de la charité, c'est quand celui qui donne ne sait pas à qui il donne, et celui qui reçoit ne sait pas de qui il reçoit. D'où l'importance des, ce qu'on pourrait appeler en français, des caisses de charité, les non-frassadim, gérées par la communauté. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un anonymat dans la relation de charité qui fait que cette vertu commence à trouver son authenticité. Une charité, j'ai repris le terme français, peu importe, une charité intéressée, de quelque intérêt noble qu'utile, est quand même acceptée, parce qu'il faut quand même faire du bien à autrui, ce qui est la définition de la tzedaka, mais elle n'est pas considérée comme étant une vertu. Par exemple, il y a des hommes vertueux qui s'adonnent au militantisme de comité de bienveillance, mais on sait qu'ils sont le président ou le trésorier du comité de bienveillance. Et alors ça entache un peu cette tzedaka de cette yorah, comment traduire ça, un peu de l'olishma. Comment est-ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un qui dirait je ferai la tzedaka en vue de. Et même c'est une bonne action. Par exemple, je fais la tzedaka en vue que j'ai un malade dans la famille qui guérisse. C'est pas l'ishma, mais on accepte quand même sa charité. Mais en réalité, il y a toujours. Par exemple, quelqu'un qui est très, très militant d'une œuvre de charité, mais un secret, une secrète attente de la Légion d'honneur. Bon, on lui donne quand même la Légion d'honneur, mais pour lui qui s'occupe de charité. Alors les commentateurs citent ces 7 niveaux, c'est codifié chez les Poskim. Et il y a un niveau supplémentaire qui est le fait d'aider quelqu'un d'autre à trouver une place d'homme libre dans le problème économique de la cité. La halva, c'est supérieur à la tzedaka. En fait, de l'expérience en fait, que nous avons de ces problèmes. Très souvent, quelqu'un qui a du bien, et on vient lui demander, prête-moi parce que j'en ai besoin pour réussir dans mes affaires. Alors il dira, non, je ne prête pas. Parce que les affaires, c'est des affaires, je sais que tu ne peux pas me rendre. Maintenant, je te donne. D'accord. Mais, est-ce que c'est clair, si je veux dire? Mais pour la loi, pour la halakha, il vaut mieux aider quelqu'un en lui prêtant de telle sorte qu'il puisse retrouver un niveau économique suffisant que de recevoir une tzedaka. Il y a un verset qui dit tzadik, un tzadik n'aime pas les cadeaux. C'est-à-dire, je vais dire ça un peu sous angle de blague, les juifs n'aiment pas recevoir des cadeaux parce qu'il faut les rendre. Mais enfin, il y a tout un profil de définition de la vertu. On préfère être celui qui donne que celui qui reçoit. C'est une des bases même de la sensibilité religieuse traditionnelle. Alors retenez, j'ai un peu résumé beaucoup de sources pour arriver à la traduction du verset de la suite. Retenez donc ce que les commentateurs résument à propos de la forme même du verset. Soit par Mechal Benarim, quand tu donnes, ne te préoccupe pas où ça va. Qui verra à Yamim, ça rend fin de compte avec beaucoup de jours, Tinsaeni. Tu retrouveras ce que tu as donné. Bon, là, ça se rattache au problème de définition de la vertu, du monde de la loi morale, par rapport au conditionnement des lois de la nature. les lois de la nature se définissent par un caractère de détermination, mais surtout c'est que la sanction de la loi de la nature est immédiate, elle est prévisible. Et si j'agis sur un phénomène, si je connais la loi qui joue, qui régit le phénomène, la réaction de cette action est non seulement prévisible, mais elle est inévitable, automatique, immédiate, à la longue. Tandis que la vertu, la loi morale fonctionne à un tout autre rythme. C'est-à-dire que l'action qui est faite n'a sa conséquence qu'en fin de compte et par des détours tels qu'il vaut mieux dire à la Mishnah être vertueux sans attendre de réaction que en attendant une réaction. Parce que si on attend la réaction, on finira par se désespérer. C'est-à-dire si la vertu se fonde sur l'espérance du salaire, disons, de la récompense, eh bien, elle perdra son fondement. C'est ce que dit la Mishnah du Pirkei Avot. Ça veut dire, ne soyez pas comme les serviteurs qui servent le maître en vue de recevoir le salaire. Raf, c'est pas exactement sera, enfin c'est de l'or du sera. Et là, mais soyez plutôt comme les serviteurs qui servent le maître, shelo almenat lekabel peras, sans attendre le salaire. Alors on s'est posé la question, pourquoi passer par un enseignement qui sort formellement et détourné? Je répète la formule de la Mishnah, c'est un point extrêmement important. Ne soyez pas comme ceux qui servent le maître en attendant un salaire, soyez plutôt, j'ajoute plutôt, comme ceux qui servent le maître sans attendre un salaire. Servez sans attendre de salaire. Mais pourquoi passer par cette espèce de paradigme? La réponse est très importante. Parce que salaire, il y a. Mais ne servez pas en vue de ce salaire qui est assuré. Parce que si c'est dans l'attente du salaire, étant donné cette différenciation entre l'action et la réaction au niveau de la loi morale, si l'espérance, l'attente est fixée sur l'attente du bras, alors cette ferveur risque de s'effondrer. Est-ce que je parle suffisamment clairement? Parce que les maîtres du Talmud ont signalé que, en avoir tiré la conclusion, la conséquence de cet enseignement, qu'il n'y a pas de salaire et que la vertu n'a pas de récompense, est une des plus grandes hérésies dans la tradition. Et je vous le dis, j'ai essayé de vous expliquer un peu, parce qu'il y a actuellement, dans la formulation, surtout en français d'ailleurs, en langue française, de ce qu'on pourrait appeler la pensée juive contemporaine, une espèce de coquetterie de la vertu comme l'art pour l'art, la vertu pour la vertu comme l'art pour l'art, qui est en porte-à-faux avec la tradition juive authentique. Ben, ça signifierait que le monde n'a pas de sens, et que la vertu n'a pas de fondement, n'a pas d'objet. Parce qu'elle n'a pas d'objet, elle n'a pas de fondement. Et c'est un problème important pour lui-même, je tenais à le signaler en passant, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors le Tana, l'enseignant ici, s'est formulé de façon très précise. Ne soyez pas comme ceux qui attendent le salaire, et ils ont raison, il y a un salaire. Soyez plutôt comme ceux qui n'attendent pas le salaire, ils ont tort parce qu'il y a un salaire. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, comment est la directive de Martin? C'est-à-dire, si ce monde-ci n'aboutit pas à un monde de la rétribution, alors ce monde-ci n'a pas de sens. Et par conséquent, une vertu qui n'aurait pas de fondement, quel que soit l'enthousiasme de sa propre adolescence, je parle de la vertu, ce sont les adolescents qui sont en général un peu ainsi, et vous avez deviné, j'ai passé l'âge, finalement, cette vertu elle-même est suspecte et elle risque non seulement de s'effondrer, mais de s'inverser, de devenir néfaste. Bon, je referme la parenthèse, j'espère que vous avez un peu saisi l'importance de ce problème. Alors, c'est ce que dit la fin du verset. Tiberovayamin tinsaïn. Car en fin de compte, tu retrouveras la contrepartie, si je le dis. Alors, réfléchissons bien à ce point de vue du problème. Je vais dire en termes un peu d'histoire de la philosophie, c'est un peu notre expérience, l'enseignement de la pensée juive. Une philosophie comme celle de Kant, qui parle de la vertu du devoir absolument désintéressé. Encore une fois, je reprends l'expression de tout à l'heure, la vertu pour la vertu, un peu comme on dit art pour l'art, il n'en reste pas moins que l'artiste vit, et on se demandait de quoi, si l'art pour l'art était que l'art pour l'art, de façon absolue, okay. Et bien finalement, on sent que beaucoup de milieux dans l'intelligentsia juive sont fascinés par cet enseignement du devoir kantien, parce que ça ressemble au commencement de l'itinéraire spirituel du juif. Le désintéressement de la vertu. Ce désintéressement de la vertu est second, parce que c'est l'intérêt de la vertu d'être désintéressé pour pouvoir être fondé, mais il est bien clair que nous sommes dans un monde où tout a un sens, premièrement la vertu. Et s'il n'y a pas de répondant à la vertu, quel est le fondement de la vertu ? J'espère que j'ai été suffisamment clair, que j'ai pénétré dans un problème, il faudrait trop de temps pour être un peu plus clair quand même. Mais j'essaie de vous donner un exemple, précisément que si quand il aime, quand il dit, si une mère aime son enfant, cet amour n'est pas désintéressé. Parce que c'est une mère qui aime son enfant. Et une mère a intérêt à aimer son enfant. L'amour est désintéressé que s'il n'y a aucun intérêt. Et donc l'amour d'une mère pour son enfant est suspect. Alors, où mène ce genre de philosophie ? On est au contraire rassuré quand c'est une mère qui aime son enfant. On est rassuré qu'elle l'aime. Parce que précisément, elle a l'intérêt à l'aimer. Voilà, alors c'est ça la limite au niveau du sens de la vie en général. Est-ce que c'est clair ? Vous voyez, le danger de cette philosophie est très séduisante intellectuellement, mais qui en fin de compte risque d'être la limite de tous les cris. Bon, c'est un problème très vaste, mais je referme la parenthèse. Alors on arrive au deuxième verset. Verset 2, Ken Khele Kleshiva donne sa part au 7, Vega Mishmuna, et même au 8. Vous voyez que nous sommes d'un coup renvoyés à notre sujet de tout à l'heure. Parce que nous avons cette directive des 7 jours et le 8e qui apparaît là dans un verset d'Ecclésiaste. Et que j'ai tenu à vous lire à l'avant, que nous retrouverons en fin d'étude. Et en particulier, un des midrashim sur ce verset que je reprends, Ten Chelek Yeshiva, donne sa part au 7, Vegam Mishmona, et au 7. Et alors, d'après le commentateur que je viens de vous citer, donne sa part à cette charité à 7 niveaux, le niveau supérieur des 7 niveaux étant le fait que la matana est donnée des 7 heures, okay, mais aussi au 8, c'est-à-dire la halva. Donc, ça, c'est la halva. Nous avons un des midrashim, il y en a énormément dans le midrash rabbin sur ce verset, qui reprennent cette dialectique de 7 et 8, qui est notre dialectique de base de Sukkot et Shemicha Atzeret, et c'est d'ailleurs de tout calendrier, puisque comme nous avons eu, c'est aussi celle de Pessah et Shavuot. Je vous dirai très rapidement, quel est l'enseignement du Maharal à ce sujet ? Je récapitule, c'est un enseignement extrêmement important. Chaque fois qu'il y a une commémoration au niveau du rythme de 7, ça concerne ce monde-ci. Et lorsqu'il y a au niveau du chiffre de 8, c'est une allusion au monde de la rétribution, au monde à venir. Par exemple, Adem Midrashim dira ceci. Rabbi Eliezer Omer, tel que l'église Shiva donne sa part au 7, et nous Shiva qui est Meshabbat, c'est les 7 jours de la semaine. Vega Mishmona, et au 8 aussi, et nous Shmona qui est Mela, c'est les 8 jours de la Mela, de la circoncision. Or, un mitzvah comme celle de la circoncision est à l'indice 8, si j'ose dire, pour indiquer que c'est une conduite dont la signification fondamentale est de l'ordre de l'achèvement de ce monde-ci dans le monde à venir. Alors chaque fois dans les mitzvot, en particulier les mitzvot du calendrier, un comportement liturgique à l'échelle de 8 jours, il y a toujours une signification de préfiguration messianique. 7 jours, ça renvoie à l'histoire de ce monde-ci, le 8e jour, c'est déjà l'indication du monde messianique. Vous voyez que nous sommes très reliés à notre sujet. Alors, cet enseignement du Maharal est très important, il s'étudie pour lui-même. Je vais simplement très brièvement le résumer en vous rappelant que le premier verset de la Torah que nous avons lu le premier jour de Sukkot commençait par une allusion au rite 7 et 8. Que on a le droit d'offrir que le huitième jour de la vie de cette bête, je reprends le verset. Chaud, au Kéves, quoi, est-ce qu'il valait, si un petit du bœuf, du mouton ou de la chèvre, lorsqu'il sera enfanté, il sera pendant 7 jours avec sa mère, sera agréé en sacrifice. C'est-à-dire, nous avons déjà dit assez rapidement une allusion dans la liturgie du sacrifice au fait que c'est le huitième jour qui est défini comme étant le jour de l'aboutissement du temps du monde. Il y a les 6 jours du commencement, le 7e jour c'est le temps du monde, et lorsque le temps du monde est achevé, lorsque la souka de David est construite, alors on aborde le 8e jour. Et j'ai joué sur 2 registres à la fois. Vous avez, je suppose, suivi. Si c'est pas clair, interrogez-moi, mais je ne sais pas si c'est vraiment clair. Vous n'avez qu'une indication que dans la tradition à ce sujet. Nous attendons, Eliyahu HaNavi, la fin du Shabbat. À la fin du Shabbat, il y a un moment d'attente messianique, c'est la liturgie d'Eliyahu HaNavi, qui est celui qui annoncera l'arrivée du 8e jour. Alors, chaque semaine, depuis les origines de l'histoire du monde, et nous sommes en cours de cette histoire, chaque semaine, nous espérons que le 7e jour que nous venons de vivre aboutira au 8e jour. Tant que ce n'est pas encore le temps, c'est le premier jour qui recommence, le lendemain du 7e. Mais vous voyez que dans l'itinéraire spirituel liturgique, c'est le Shabbat soir qu'on attend Eliyahu HaNavi, qui est censé nous annoncer l'arrivée du Mashiach le 8e jour. Est-ce que c'est suffisamment clair? Ça suffit déjà comme illustration. Et en fait, toutes les fêtes qui ont 8 jours ont une signification messianique, en particulier Hanouka, et qui est une fête qui a 8 jours. Mais nous avons déjà cet enseignement avec Shmini Ha-Aseret. L'histoire du monde est achevée, le monde est construit dans sa plénitude, alors on aborde le commencement du 8e jour, c'est Shmini Ha-Aseret. Alors j'ai tenu à mettre en évidence ce verset de Kohelet que nous retrouvons en point d'ordre ici. Maintenant, essayer de développer assez rapidement un thème général sur le livre de Kohelet. Vous savez que dans le canon biblique, il y a 3 livres du schéma Amelet, c'est Shir HaShirim, Mishlé et Kohelet. Et une tradition du Zohar enseigne que c'est à 3 âges différents que Shlomo HaMelech a enseigné ces 3 chants du roi Salomon. Donc, Shir HaShirim dans sa jeunesse, et Kohelet dans l'âge mûr, et Mishlé dans l'âge de sagesse. C'est-à-dire, Shir est une révélation de l'ordre que Midat HaChesed, la grâce, la Midat HaRoshana, etc. La Midat de Roshana Rabba, d'ailleurs, et Kohelet, c'est de l'âge mûr, c'est la Midat HaDin. Et puis Mishlé, c'est le temps de la sagesse. Alors ça, c'est Midat HaRachamim. Il y a différentes sources dans le Zohar, d'ailleurs, à ce sujet. En particulier, une source qui va dans le sens du Chabad, Orma Minadar. Mais je reviens à la source principale. Or, il n'y a pas de doute que, en livre de Kohelet, nous avons l'impression, l'apparence d'un discours spécialiste. Je vais lire les premiers versets du livre, et ça va nous poser un problème. On se demandait, comment est-il possible qu'un livre apparemment aussi pessimiste se trouve dans la Bible? La Bible a un discours dont l'objet est bien évidemment d'être un message d'espérance. Et on sait que ce livre est dans la Bible, et alors on perd un peu l'idée de s'étonner qu'un livre apparemment aussi pessimiste soit dans la Bible. Donc, il y a une thèse classique. Que bien que ce livre soit pessimiste, qu'il est dans la Bible. Et que, en particulier, d'ailleurs c'est une source qui existe, il y a des versets qui sembleraient à nous inciter à penser que les rabbins ont eu raison, comme ils en ont eu d'ailleurs l'hypothèse de cacher ce livre, parce que, avec tout le message de la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Ecclésiaste, mais il faut le lire, on va lire quelques versets. Mais comme à la fin du livre, il y a une exhortation à la bonne conduite parce qu'il y aura un jugement, alors pour ce verset-là, de la fin du livre, on l'a mis dans le canon biblique dévoilé. Mais étant donné son allure, son contenu et de forme, eh bien, on aurait dû peut-être le cacher et il serait entré dans la tradition des sages, qui est une tradition d'initié, mais dans la tradition dévoilée, il aurait été dangereux. C'est un texte classique, on pourrait l'analyser beaucoup plus longuement encore, je crois qu'elle vous est suffisamment familière. J'essaie de mettre en évidence une autre approche du thème même de l'Ecclésiaste. On entend qu'au contraire, le livre de Coëlette est un livre extraordinairement optimiste, quelles que soient les apparences, et qu'il s'insère précisément dans cette dialectique des 7 jours de la construction du monde décraqué et du 8e du monde de l'achèvement. Je vous donne d'abord l'argument, vous me direz s'il est suffisamment clair. On s'approche du livre de Coëlette comme s'il s'agissait d'un philosophe pessimiste, mais qui, en dépit de son optimisme, acquiesce à la vertu. C'est-à-dire, lorsque Coëlette, prenez depuis le début du livre maintenant, dit, avec la valine à Marc Coëlette, vanité des vanités, dit Coëlette, avec la valine, vanité des vanités, à Col Havel, vous êtes au verset 2 du premier chapitre, tout est vanité, et bien c'est bien ce qu'il pense. C'est sa thèse, c'est son postulat. Il a expérimenté le monde, nous verrons qu'il avait la possibilité de l'expérimenter vraiment. C'était le roi de Jérusalem, et dans toute sa puissance et dans toute sa sagesse, il connaît, et il a les moyens de connaître la réalité du monde où nous sommes, et voilà la conclusion qu'il en tire, avec la valise, ma mère, avec la valise, à Colavel. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Que c'est sa thèse. Et que cependant, après une description qui, si elle s'est épuisée à être ce postulat que le monde est vraiment vanité, une description extraordinairement pessimiste, et qui rendrait pessimiste, si on la prend au sérieux, le plus grand des optimistes. Tout est vanité, et nous verrons tout à l'heure les différentes étapes de son expérience, il a expérimenté tout ce qui pourrait donner un sens à la vie. Et il expérimente vraiment au niveau de quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce qu'il en avait les conditions de cette expérimentation, et bien malgré cela, il consent à la vertu. Il y aurait ici une sorte d'adhésion du fait gratuite, bien que, en dépit d'eux. Et nous connaissons d'ailleurs des piétés de ce type, c'est-à-dire des piétés désespérées, des piétés pessimistes, des piétés de désespérés, mais qui en dépit que, c'est un mystère, et pourquoi ils croient quand même. Et alors, pourquoi ils consentent, ils acquiescent à admettre qu'il faut faire comme si le monde a un sens. J'essaie de mettre en évidence que ce n'est pas du tout le cas de Coëlette, mais que c'est ainsi qu'on le présente. Et l'apparence semble dire ça de façon massive. J'ai souvent interrogé des penseurs juifs qui ont cette position. C'est-à-dire que le monde est absurde, un peu comme disent les existentialistes, et d'ailleurs Coëlette, et voici. Il y a fallu l'air du chapitre. Mais, eh bien, quand même, la Falpichène, en dépit de tout, Shikaro Emet, avec un silence de tonnerre, en se taisant, mais en n'en pensant pas moins qu'elle, eh bien, on admet quand même, et on mange cachet, et on va à la synagogue le Shabbat, et on est vertueux, et on va à la Sadaka, etc. Et c'est une espèce de position, une sorte de foi qui a perdu son optimisme, par définition, de foi qui a perdu son énergie, qui a perdu sa vie propre, qui a perdu son fondement propre, et qui semble décrire le profil d'énormément de gens pieux qui se pensent lucides. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors, ce que je vais essayer de mettre en évidence, ce n'est pas du tout le cas de corriger, loin de là. Mais j'espère avoir suffisamment décrit les œuvres de position des croyants les abusés, mais croyants quand même. Alors, lorsqu'on parle avec eux, ils ont des explications développantes. La plus jolie, si j'ose dire, c'est d'assez massoret de tabac. On continue la tradition de la tabac. On n'y croit plus, mais on fonctionne. Parce que pour ça, ça peut avoir un sens, la tradition de la tabac, massoret de tabac. Mais en fait, il y avait renoncement profond
Alors voyez à quel point, à ce niveau-là, un lycopoélectre risquerait d'être dangereux s'il n'était que ça. Disons s'il était cela. Est-ce que c'est clair? Alors ce que je vais essayer de mettre en évidence, ensuite je le fondrai sur le commentaire, bien sûr, c'est une toute autre lecture de cela. Premièrement, je voulais savoir que, au niveau historique, cette sagesse du roi Salomon se situe en un temps où, effectivement, dans le monde extérieur, il y a une espèce de désenchantement qui commence. Si vous faites les correspondances historiques entre l'histoire d'Israël et l'histoire du monde environnant, vous verrez que le grand temps, les grandes espérances, dans le monde idolâtre lui-même, commencent à s'estomper. On entre dans ce que les mystiques non-juifs appellent le temps noir, l'époque noire. On entre dans un temps de désespérance. Il y a à chaque fin de cycle des grandes civilisations des époques de désenchantement. Comme dans la civilisation occidentale, le nom qui me revient toujours, c'est Pierre Loti, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Les Désenchantés. Je ne sais pas si on rappelle dans la culture occidentale actuelle. Donc, après le grand siècle, eh bien, on n'y croit plus, mais on fait comme si. Et alors, on vit un désenchantement de l'existence. Eh bien, autant de l'Église, ces philosophies du pessimisme étaient les philosophies ambiantes de façon bien évidente. Il y avait les écoles mystiques d'initiés, les pythagoriciens, enfin, je ne vais pas vous citer toutes ces choses qui vous sont d'ailleurs familières, mais ce sont des cercles d'initiés et finalement des sociétés secrètes avant la lettre, mais l'ambiance culturelle est une ambiance de désespérance. D'ailleurs, il suffit de lire la littérature contemporaine pour se rendre compte à quel point il en est ainsi dans la culture ambiante. C'est-à-dire, plus personne ne croit à rien, qui est un fondement, mais il faut bien donner un sens, attribuer un sens à l'existence, et alors faire comme si. Je crois que l'expression « qu'il est » est bien à sa place. De temps en temps, on sent qu'on se fait prendre au piège, et que tout se passe comme si on y croit et qu'on vit avec, mais très vite on retrouve cette lucidité de l'ecclésiaste, entre guillemets, quand il était tout réel. Et si j'entendais ce mot en hébreu, réel, c'est vraiment la vacuité absolue, le vide absolu de tout, et qui dit cela, le sage parmi les sages. Et non seulement le sage parmi les sages, mais celui qui avait la possibilité d'expérimenter tout ce qui pourrait donner un sens à la vie, comme nous allons voir d'ailleurs en cette vidéo, assez rapidement. Alors voilà la première thème, qui est classique, qui est familière, présentée pour elle-même, mais déjà en indiquant qu'elle n'a pas de base. Vous savez, cette attitude pessimiste est très près de l'attitude sophiste, et on a beau, apprécier la virtuosité intellectuelle des sophistes, on ne peut pas se garder de pitié pour eux-mêmes, parce qu'on sait qu'eux-mêmes perçoivent le caractère contradictoire de leur propre postulat. Par exemple, une des formules du sophisme, c'est « La seule chose qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a rien de certain. » Et on fait des thèses de doctorat là-dessus, brillantes. Bien, je ne sais une seule chose, c'est que je ne sais rien. Et il est juste l'autre, pareil. Et alors, un de mes maîtres disait « Si c'était vrai, ben, tu ne pourrais pas le dire. » Il y a une contradiction intérieure. Hein? Est-ce que c'est clair? Bon, c'est pas le sujet, mais simplement pour indiquer qu'il y a là un drame de l'existence, je dirais même, pas seulement existentiel, mais presque existentialiste, parce que c'est un peu le drame de la pensée existentialiste, mais que Coëlet signale tout de suite. Dès que un temps d'histoire qui était la constitution d'une identité, un engendrement, et donc qui avait son sens, parce que c'était le sens d'un engendrement, c'était le bonheur de la matrice qui engendre, ça a un sens. Une fois que c'est constitué, ça continue, par contre conforme, mais ça, c'est privé de sens. À partir du moment où l'histoire d'une identité s'est constituée, le seul fait que se perpétue l'a fait entrer dans ce pessimisme du non-sens, parce qu'il y avait sens. Et mais regardez, est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Un peu, si vous voulez, je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les fins de cycle de civilisation. Et alors, toutes les justifications qu'on donne à perdurer, à persévérer, et finalement ne font pas le poids. Et c'est le temps où finalement le suicide devient entre autres choses. C'est le temps où on a besoin des médecins de l'âme. Et alors qu'il y a des moments de civilisation où ça n'existe pas. On n'a pas besoin du refrain des fiches. À partir du moment, c'est à partir de Pierre Loti qu'on a besoin du refrain des fiches et qu'il y a le problème de la drogue. Je me réfère à ce temps-là, hein, le temps détendu. Si je me souviens bien de la littérature, on cherche les paradis artificiels parce qu'on est déçu de tout paradis réel éventuel. Et nous sommes en plein d'une civilisation de ce type. Bon, ça va la peine de prendre du temps pour le plus je pensais et suffisamment. Alors, voici la deuxième thèse, un peu décalée, mais tout va changer, que nous allons lire avec le texte. C'est que Coëlette est un sage qui discute avec le pessimiste. Et en poussant à lui l'expérience du pessimiste pour en montrer son caractère contradictoire. C'est-à-dire, je dis d'abord le raisonnement. Si il en était ainsi, comme tu dis, que tout est réalité, et moi je peux te dire que j'étais dans une situation qui pourrait fonder ce que tu dis beaucoup plus que toi. J'étais le roi de Jérusalem, puissance de roi et la sagesse de connaissance de la vérité. Et je peux te dire que s'il n'y a que ce monde-ci, alors même ça, et la puissance, et la vertu, et la sagesse de la vérité, c'est vraiment rêvé dans la vie. C'est-à-dire que si le monde est rêvé, alors s'il est vraiment rêvé, il est rêvé au maximum et à la limite. Ça veut dire, je peux te dire que si j'avais à plaider tant de ces pessimistes, ça va plus loin de ce que tu dis. Mais il n'y a pas que cela. Est-ce que la thèse est suffisamment claire? C'est-à-dire, ce n'est pas un pessimiste qui formule le discours pessimiste, c'est un sage qui dispute le discours pessimiste de l'intérieur en le poussant à l'absurde. Et en montrant que si vraiment le monde est vain, alors il n'est pas seulement vain, il est vanité de vanité. Alors je vais aller tout de suite au commentaire que vous voulez vous faire lire, et je vais lire d'abord dans la source. Voilà, un commentaire qui est un ultra rabat. Révèle à la vie. Mahou révèle à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, révèle de la vie? Vanité de vanité. Alors, d'abord, pour comprendre la question que je vais se poser dans ce ouvrage, une petite analyse de grammaire. Ici, nous avons un superlatif de substantif, vanité des vanités. On est familier au style bédier Ken, vanité des vanités. Alors, on croit que c'est une idée claire. C'est pas une idée claire du tout. Je prends l'étymologie du mot Hevel. Hevel, ça y est, le souffle. Un peu comme ceux qui connaissent encore l'arabe, Hevel, en arabe. Ça veut dire à la fois le souffle et la tête vie. C'était Hevel. En français, c'est devenu Naboul. Mais en arabe, c'est Naboul. Ça veut dire celui dont la tête est vide. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, Hevel, c'est ce qui est éphémère, comme le souffle. Et c'est la dérivation, le mot technique. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, vanité des vanités? La question est posée par le Midrash d'une manière suivante. Un souffle, je comprends, mais un souffle de souffle, qu'est-ce que ça veut dire un souffle de souffle? Vanité à la puissance de Dieu. Alors, est-ce que c'est le Midrash? Amar Rabbi Yoshua ben Kotra. Rabbi Yoshua ben Kotra enseigne Machal de Adam, c'est chauffé, suivant. Ça ressemble à un homme qui a disposé sept marmites, une au-dessus de l'autre. Le souffle qui s'échappe du couloir de la septième marmite supérieure, c'est un souffle de souffle. Il y a sept marmites, en dessous il y a le feu, chaque marmite. Le souffle qui va du feu, c'est un souffle. Mais, et qui en lui-même se perd dans l'infini, mais entre-temps, il a servi à quelque chose. Il a chauffé la première lame. C'est clair? Le souffle qui sort de la première marmite a chauffé la deuxième, etc. Mais le souffle qui sort de la septième marmite, lui, c'est vraiment un souffle de souffle, et c'est là que la vanité des vanités apparaît, la vacuité absolue. Encore une fois, si je me situe dans le monde de la première marmite, et que je me dis, mais tout ça, ça s'en va en fumée, en buée, en souffle, okay? Quel que soit le goût du bouillon, la buée du bouillon après sa sèche. Et alors donc c'est un monstre qui fonctionne, mais en fin de compte, il s'en va enfumer. Seulement j'oublie qu'il y a une marmite dessus. Alors s'il y a une marmite dessus, bon, peu importe, ça sert. Ça se récapitule, pas pour moi, mais pour ce qu'il y a de plus haut. Seulement celui qui se situe dans la septième marmite. Alors là, ça y est, c'est vraiment l'absurdité absolue. D'autant plus que ça servait jusque-là, et à partir de là, ça ne sert plus à rien. Vous voyez à quel point c'est le pessimisme absolu. Okay. Alors comment il compte ces sept chiffres? On va le voir tout de suite. Avec la virgule, il y a un singulier et un pluriel. Ça fait 3. Avec la virgule. C'est clair? Il devient 3. C'est répété. Il devient 3. Avec la virgule, ça fait 6. À quoi avec? C'est le septième réveil qui est vraiment l'éveil de la virgule. Ça fait 7. Et alors, nous avons un deuxième midrash que je vais vous dire tout de suite. Enfin, parmi d'autres d'ailleurs, et bien que je vais vous le lire littéralement. Oui, c'est un mirage de Rabbi Simon. Il dit ceci. Shivra, Haralim, Amar Kohelet, cette vanité auxquelles Kohelet a fait allusion, Keneget, Shivra, Yemen, Bereshit. C'est par rapport aux sept jours du commencement. Et le mirage va citer l'air de chaque jour. Et réciter corollairement un verset de la Bible, ça prendrait trop longtemps de faire sept exégèses, les sept versets. Nous montrant que, quoi que ce soit du monde, a une éventualité où ça disparaît, ça sert à rien. L'heure du commencement disparaît. L'heure du premier jour disparaît. L'heure du deuxième jour disparaît. Même le niveau septième, qui est celui du Shabbat, vous voyez comment nous retrouvons notre plan des sept jours et du huitième. Il y a le risque que si on a raté l'authenticité du Shabbat, il y a écrit Nechalelea et Montiouman. Et comment le Midrash va nous faire rejoindre cette vision très précise dans le discours de Kohelet que, quelle que soit la vertu et l'éventualité, qu'on aurait le même sort que, en fin de compte, celui qui n'a pas eu l'effort de la vertu. Mais ça reste au niveau de la vertu. Et alors, si c'est suffisamment clair, c'est-à-dire que ces sept niveaux de vanité dont parle Kohelet font allusion aux sept jours du monde. À l'analyse précédente. Ça veut dire, tant que je suis dans le premier jour, même si le premier jour se récapitule en Hevel, c'est un Hevel qui sert à quelque chose, qui a un hommage, parce qu'il fait exister le deuxième jour. Mais si je me situe au septième jour et qu'il n'y a pas de huitième, alors le Hevel qui sort des sept jours, c'est vraiment Hevel à Valim, du pessimisme absolu. Donc j'arrive finalement à la réponse, c'est-à-dire voilà la directive de Kohelet, si le monde s'épuise en lui-même, comme vous dites, alors c'est vraiment vanité à un point que vous ne savez pas. Mais grâce à Dieu, il y a un huitième jour. Voilà, c'est ça la réponse. Et j'ai voulu le relier à ce verset de « Donc ça part au 7 et aussi au 8. » Alors, nous allons lire, si vous voulez, assez rapidement, quelques-uns des versets où Kohelet, effectivement, raconte cette expérience. On a quand même 10 minutes avant les sikhot. Et pour être sûr de ne pas oublier, je voudrais vous lire sur le verset 2 du chapitre 11, un des midrashim concernant la catégorisation entre 7 et 8. Et donc c'est le chapitre 11, verset 2. Et nous allons retrouver dans le midrash exactement notre sujet. Voilà. C'est un enseignement de Rabbi Levi dans le Midrash Rabbah. Tel Terek Shiva Elu Shiva Yeme Sukka, c'est le 7 jours de la Sukka, les Gar Mishnona, et même au 8 jours, et même au 8 jours, c'est fini Ra'atzeret. Alors on voit bien que les maîtres du Midrash ont relié ces deux thèmes. D'une part, la dialectique de Kohelet mettant en évidence à quelles conditions le monde est vraiment vanité, C'est-à-dire, s'il s'épuise sur lui-même, encore une fois, le septième jour n'a pas l'espérance d'un huitième. Alors tout est vraiment tiré la valise, et il réalise ça en parallèle au sept jours de Souka et le huitième jour qui finira à la fête. Vous voyez donc quel est le lien. Et alors, je vais vous citer en passant quelques versets de cette dialectique de Kohelet. D'abord, il se définit comme étant Melech Yerushalayim. Vous avez dans le premier verset. Divrei Kohelet ben David, parole de Kohelet, fils de David, Melech Yerushalayim, roi à Jérusalem. Melech Yerushalayim, or, je crois que dans ce verset, il est capable d'être l'homme de Kohelet, l'Ecclésiaste. En français, ça veut dire celui qui est capable d'assembler l'assemblée. Deux hommes ont été capables de faire que Israël soit une assemblée. C'est Moïse et Salomon. Quelques versets où la Torah indique que la force de Moïse était de faire de tous les peuples d'Israël un Kahal. Et ici, Shlomo est capable de la même capacité. Il est le Kohelet, celui qui est capable de faire assemblée. Ben David, fils de David, avec tout ce qu'on a déjà appris, mais l'air du Yerushalayim. Il est relié à l'absolu, à la sagesse et à la puissance. Voilà qui parle et qui dit Ave la valine à Marcolette, Ave la valine à Corade. Alors, dans le premier chapitre, vous allez prendre en particulier le verset 12 et le verset 14. Ami Kohelet, moi Kohelet, verset 12, Haïti Melech al Israël Yerushalayim, allusion à la puissance qu'il pouvait avoir. Encore une fois, si je la recite, c'est important, c'est-à-dire qu'il était vraiment dans le cas, dans la situation d'expérimenter le mieux possible et dans la plus grande puissance tout ce qui peut donner un sens à la vie. Et si lui dit que ça n'a pas de sens, lui, c'est de quoi il parle. Je vais quand même un peu enrichir ça. Si quelqu'un fait d'impuissance vertu, alors son expérience ne peut pas servir de témoignage. Quelqu'un qui n'a pas pu être riche, lorsqu'il dit la richesse ne donne pas le bonheur, ça ne s'entend pas. Est-ce que c'est clair? Je me souviens, je crois que j'ai cité une histoire. Et quand j'ai commencé mes études à Paris, on s'est passé à l'université, à la faculté, des cartes postales, pensez pas à mal, d'humour anglais. Vous savez qu'il y a très peu de cultures qui ont un humour qui est vraiment doux. Il y en a quelques-unes, dont l'humour anglais. Ça y est, l'humour juif aussi, et l'humour chinois. Et l'humour anglais est très spécial. Il y a un bébé, tout nu, assis en position de lotus, vous savez, les sages d'Extrême-Orient, et avec un air très grave, la légende disait Ah, mes enfants, la vie. Alors, si c'est un bébé qui dit ça comme ça, c'est ridicule. C'est un vieillard qui a eu l'espérance de la vie, qui vous dit, mais vous savez, plus, ça a déjà notre sens. C'est clair, c'est bien. Ça fait notre sens. Et alors, verset 14. Raïti, Koloma, Asim, Chena, Asuta, Rachenej, je vois, littéralement, ça veut dire tout ce qui se fait sous le soleil, ça veut dire tout ce à quoi les hommes occupent leur vie. Toutes les entreprises humaines, chacune avec son centre d'intérêt. Mais je les ai expérimentées toutes. Lui, mais un col révèle, et voici tout est révèle, pour recouvrir et poursuivre devant. Encore une fois, c'est clair ce que nous avons déjà appris, s'il n'y avait que ça. Encore là, alors, la directive avec le sceptique est très claire. Toi, le sceptique, que tu dis, tu ne sais pas à quel point. Tu aurais raison si tu avais raison. Vous voyez quelle est la manière de dialoguer, de lier un secret. C'est que la vanité absolue du monde, c'est le monde de 7 jours, s'il n'y avait que 7 jours. Mais si ça débouche sur un 8e, alors tout est récupéré. Et au fond, en termes de tradition juive sainte, ça veut dire que ce qui donne un sens au monde, quel que soit encore une fois l'impact de l'expérience de désespérance qu'on peut avoir au jour le jour, et qui est décrit de façon magistrale par les théologiens, au fond, ce qu'il faut, c'est dire religieux, eh bien, s'il n'y a pas une espérance messianique,